Le vrai problème, c'est que pour les humilier, les autorités syriennes sont en train de les mettre avec les criminels communs. Et c'était une façon pour leur dire, en fait, vous êtes juste des criminels, ne pensez pas que vous êtes des intellectuels ou que vous êtes en train de défendre la cause de l'expression libre ou les droits de l'homme en Syrie.
Comment s'organisent les activistes des droits de l'homme en Syrie pour continuer à faire leur travail?
Au fait, aujourd'hui, aucun des groupes des droits de l'homme en Syrie n'est légalement enregistré. Les autorités refusent de les reconnaître juridiquement. Donc ils sont tous dans une certaine clandestinité et ils sont tous sous une épée de Damoclès où les autorités syriennes peuvent à n'importe quel moment les arrêter et les accuser d'appartenir à une organisation non enregistrée. Ils continuent à travailler parce qu'ils ont le courage de leurs convictions, mais c'est sûr que les arrestations qu'on a vues les deux dernières années mettent beaucoup de pression. Beaucoup d'entre eux, par exemple, aujourd'hui n'ont plus le droit de voyager. Et la Syrie est devenue un prison pour eux, ils ne peuvent pas sortir du pays. Pour d'autres qui sont sortis du pays et qui continuent leur activisme en dehors de la Syrie, on a reçu quelques informations sur quelques cas où leurs familles qui sont restées en Syrie sont en train de subir des pressions. Donc c'est une autre façon d'essayer aussi de restreindre le champ d'activité de ces activistes.
On voit par rapport à la Syrie une politique de boycott, du moins de la part des États-Unis, de la France récemment. Est-ce que vous pensez que ces politiques d'isolement peuvent vraiment permettre une amélioration des droits de l'homme à Damas?
Ce qui se passe aujourd'hui ici, la Syrie est isolée, ce n'est pas parce qu'elle ne respecte pas les droits de l'homme, c'est parce que il y a un conflit politique concernant le Liban, l'Irak et le processus de paix au Proche-Orient. Et les Syriens en sont très conscients. Et ils savent très bien aujourd'hui que pour sortir de leur isolement, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire des compromis sur ces autres dossiers et pas nécessairement sur le dossier des droits de l'homme. Maintenant, en même temps, donc nous ne sommes pas contre l'engagement avec la Syrie à une condition que ce soit un engagement de fond, c'est-à-dire il faut s'assurer que si la Syrie va être un partenaire responsable de la communauté internationale, elle doit démontrer avec des faits concrets, comme relâcher les activistes en détention, qu'elle est prête à respecter les conventions internationales.
Human Rights Watch appelle à l'application de la Charte arabe des droits de l'homme. Qui sont les pays arabes qui respectent ou qui respectent le mieux cette charte?
Il faut dire malheureusement que le monde arabe est plus connu pour les violations des droits de l'homme que le respect. Au fait, c'est une charte qui est devenue effective le 15 mars. Il y a 7 pays arabes qui ont signé, dont la Syrie. Et donc, on demande à Ahmed Moussa de prendre la position qui est de respecter cette charte, de demander officiellement au président syrien de relâcher les détenus politiques.
En même temps, cette charte, elle a été élaborée en 1994, donc ça fait quand même plus de 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des pays dans lesquels il y a eu des avancées par rapport à ce texte?
C'est vrai, non, cette charte, ça fait longtemps qu'elle existe, sauf qu'une des conditions pour qu'elle devienne effective était qu'il fallait un certain nombre de pays la ratifient. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certains pays qui ont essayé d'améliorer la situation des droits de l'homme. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, le monde arabe, de la côte atlantique, du Maroc jusqu'en Irak, on continue à avoir une situation de répression des droits de l'homme qui est très très forte. Que ce soit en Tunisie où il y a une répression très forte de tout ce qui est la pensée libre et l'opinion, que ce soit en Égypte où on a connu de nouveau des attaques contre des activistes et contre des journalistes, que ce soit en Israël et en territoire palestinien. Bon, la liste continue. Il y a quelques petites lueurs d'espoir. Mais je dirais que le tableau global n'est pas très positif.